On est un peu au niveau mondial en train d'arriver dans une situation comme elle existe aux États-Unis, où tout le monde s'achète une arme pour se défendre. Si moi j'achète un couteau pour me défendre, ben mon voisin il va se dire ben j'ai besoin de au moins un pistolet, un revolver. Et ben moi je vais dire ben là il me faut un fusil semi-automatique. Le voisin il va se dire bon le gars là il a un fusil semi-automatique, moi c'est le bazooka, je vais le défoncer. Et c'est pas du tout créer une atmosphère de paix, au contraire. Et si on a ça au niveau mondial, le risque que ça explose est énorme. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode déjà de l'Instant Piment, où nous jetons un regard à contre-courant, pimenté sur l'actualité internationale. Moi je suis, pas de surprise, toujours Marc Bottenga, député européen du PTB. Mais avant de commencer, comme c'est déjà le cinquième épisode, vous en avez peut-être raté l'un ou l'autre, alors c'est le moment de vous abonner pour ne rater plus aucune vidéo. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne. Commençons d'abord par un dilemme économique auquel fait face tout gouvernement dans le monde. C'est ce qu'on appelle le dilemme fusil ou beurre. Guns or butter. Sur Wikipédia, ils ont même fait un graphique. Alors c'est quoi ? C'est que tout gouvernement a un budget et il doit décider comment le dépenser. On le dépense plutôt en fusil, en investissant par exemple dans la production d'armes, ou est-ce qu'on va le dépenser plutôt pour le social, en investissant par exemple dans l'alimentation, le beurre. Les graphiques sur Wikipédia montrent très clairement que plus on dépense en fusil, pour des fusils, ben moins on aura d'argent pour le beurre, pour l'alimentation. Par contre, si on dépense moins en fusils, alors on peut mieux nourrir, mieux prendre soin de sa population et donc on a plus d'argent pour le beurre et pour des investissements sociaux. C'est aussi le choix auquel nous faisons face aujourd'hui. Et notre gouvernement est en train de faire un choix très clair. Mais regardons par exemple l'Europe avec Charles Michel. Charles Michel, ancien Premier ministre belge, ben, il est à l'Europe maintenant, il fallait bien le recaser. Et écoutez-le.
Est-ce que les pays européens ne devraient-ils pas augmenter leur budget de la défense ?
Yes.
Oui. Et c'est ce que nous faisons, car nous avons décidé de les augmenter de 200 milliards d'euros dans les années à venir.
Alors pourquoi est-ce qu'il fait des petits sauts de joie comme ça ? C'est pas parce qu'ils ont libéré de l'argent pour les soins de santé, pour les pensions, pour quoi que ce soit. Ah non, il s'amuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a 200 milliards qui seront libérés pour les armes. Pour l'armement, 200 milliards. Vous voyez déjà que l'industrie militaire, là, ils font péter le champagne. Hein. Inonder le secteur militaire d'argent fait partie de ce qu'on appelle la militarisation. Et l'Europe vit aujourd'hui une époque de militarisation. Avec en tête l'Allemagne. L'Allemagne a décidé de donner 100 milliards d'euros de plus au secteur de l'armement. 100 milliards. Ça ferait potentiellement de l'Allemagne la troisième puissance militaire au monde. Alors qu'on avait dit après la Deuxième Guerre mondiale que l'Allemagne ne devrait plus jamais militariser. What could possibly go wrong? Et la Belgique n'est pas en reste. Écoutez ce qu'en dit Alexandre De Croo, Premier ministre belge.
L'engagement est que nous faisons partie du club de l'OTAN, qui nous protège. Si nous voulons faire partie de ce club, nous devons également payer notre cotisation. Cela veut dire que d'ici 2035, nous allons porter nos investissements, notre budget de la défense, à 2%.
Donc, la Belgique va dépenser 2% de son PIB, son produit intérieur brut, c'est toute la richesse produite en Belgique, aux dépenses militaires. C'est énorme. C'est 5 milliards extra, 5 milliards supplémentaires par an. Ça vient en plus des 11 milliards que ce gouvernement avait déjà décidé de dédier à la défense début de cette année. Et ça vient en plus de ce qu'avait décidé le gouvernement précédent, là, de Charles Michel.
Yes.
Pour l'achat des F-35, là, des avions de chasse américains stylés, qui peuvent se cacher, qui peuvent porter des bombes nucléaires, aller attaquer des pays, tout ça. Donc, le gouvernement Charles Michel avait décidé d'en acheter 34 de ces avions. Un seul avion, sans frais d'entretien, de réparation, etc., coûte déjà 100 millions d'euros. Avec 100 millions d'euros, on pourrait aussi construire un hôpital, ou 12 maisons de repos, ou même 47 école, imaginez-vous. Et donc tout cet argent qui va vers la défense, le militaire, les armes, ben, on va pas le mettre ailleurs. Vous voyez, à chaque fois que le gouvernement nous fait qu'il n'y a pas d'argent pour nous, pour le social, eh ben là, des milliards pour le militaire et les armes, il les trouve de nulle part. Pah, comme ça, miracle. Mais est-ce que toutes ces dépenses militaires ne sont pas nécessaires tout simplement pour notre sécurité? C'est en tout cas ce que prétend Jens Stoltenberg, qui est secrétaire général, grand patron en gros, de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'alliance militaire dirigée par les États-Unis, dont font partie la majorité des pays européens, dont la Belgique. Écoutons-le.
Les dirigeants de l'OTAN viennent de prendre la décision de transformer et de renforcer notre alliance à une période cruciale pour notre sécurité. La guerre du président Poutine en Ukraine a brisé la paix en Europe et a créé la plus grande crise de sécurité en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Donc en gros, les gars, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est que nous devons dépenser plus pour nous défendre, notamment de la Russie. Mais est-ce que ça tient la route? Aujourd'hui, les pays de l'OTAN pris ensemble dépensent déjà, allez, à la grosse louche, 17 fois plus en affaires militaires que la Russie. 17 fois plus. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que dépenser 18 fois plus, ça va décourager, dissuader, je ne sais pas, Vladimir Poutine? Est-ce que Vladimir Poutine, il va se dire « Ah, purée dommage, il dépensait que 17 fois plus, je me suis dit, là j'ai une petite chance, je vais attaquer l'OTAN. Mais maintenant que c'est 18 fois, j'abandonne. Ah, je me rends, voilà. » Évidemment que non, c'est pas comme ça qu'on va garantir la paix dans le monde. Au contraire, c'est même extrêmement dangereux ce genre de course à l'armement. Parce qu'on est un peu au niveau mondial en train d'arriver dans une situation comme elle existe aux États-Unis, où tout le monde s'achète une arme pour se défendre. Il y a aucun endroit où il y a autant d'armes en circulation dans les pays industrialisés qu'aux États-Unis. Et c'est aussi le pays où il y a le plus de tueries de masse, comme on a dans les écoles et dans d'autres endroits. Ce risque était clair déjà pendant ce qu'on appelle la guerre froide. Donc, la guerre froide, c'est la deuxième moitié du 20e siècle, du siècle précédent. Et c'était une confrontation, disons, entre deux blocs. Il y avait d'une part le bloc capitaliste, dirigé, dominé par les États-Unis, et d'autre part le bloc dirigé, dominé par l'Union soviétique, qui se revendiquait du socialisme, disons. Bon, ces deux blocs étaient dans une course à l'armement. Mais certainement, ils se sont rendus compte que c'était extrêmement dangereux. Ils sont mis autour d'une table pour négocier des limitations, donc des traités de limitation de l'armement. Et il y en a eu pas mal. Malheureusement, ces traités des dernières années ont été pas à pas détricotés, hein, et annulés. Les États-Unis sous Bush sont sortis d'un traité qui limitait les missiles antibalistiques. Les Russes sont sortis d'un traité qui limitait la quantité de forces conventionnelles en Europe. Puis les États-Unis sont aussi sortis d'un traité qui limitait les forces nucléaires à portée intermédiaire. Donc voilà, on voit que toute cette architecture un peu négociée de sécurité collective et mutuelle a été un peu détruite les dernières décennies. En fait, il faudrait retourner à cela. Mais Barack Obama, président des États-Unis, a fait exactement le contraire. Écoutons-le.
Les 28 pays de l'OTAN se sont engagés à augmenter leur investissement dans la défense et à s'orienter vers un investissement de 2% de leur PIB dans notre sécurité collective. Ces ressources aideront l'OTAN à investir dans des capacités essentielles, notamment en matière de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de défense antimissile. Cet engagement montre clairement que l'OTAN ne sera pas complaisante. Notre alliance inversera le déclin des dépenses en matière de défense et se hissera à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle.
Vous avez bien entendu, Barack Obama, président des États-Unis, annonce en fait qu'il faut arrêter cette tendance à limiter les dépenses militaires. Et depuis, en fait, de cette manière-là, ils ont lancé une nouvelle course à l'armement.
Yes, yes, yes.
En 2021, pour la première fois dans l'histoire mondiale, les dépenses militaires mondiales ont dépassé les 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Moi, je sais même pas combien de zéros ça fait. Mais ce que je sais, c'est qu'une fraction minuscule de cet argent pourrait servir à en finir avec la faim dans le monde. La question qui se pose, c'est évidemment pourquoi? Pourquoi est-ce que l'OTAN a lancé cette course à l'armement? Pour le comprendre, il faut briser un tabou. Il faut dire quelque chose qui, quand tu le dis publiquement, les politiciens traditionnels pètent un plomb. Et c'est de casser le tabou suivant. L'OTAN, qui se prétend une alliance défensive, est en fait aujourd'hui toujours plus ouvertement une alliance offensive d'attaque et des guerres extérieures. Quelques exemples, hein, des pays de l'OTAN ont mené des guerres, en Afghanistan, en Libye, un peu partout dans le monde, est présente maintenant cette alliance militaire, mais aucun de ces pays a attaqué un pays de l'OTAN. Donc ce n'était pas des guerres défensives, c'était des guerres offensives avec des intérêts différents, que ce soit le pétrole, le gaz, peu importe. Mais donc cette petite histoire de l'OTAN défensive, elle est fausse. D'ailleurs, quand on regarde les armes qu'on achète, le F-35, là, le jet avion de chasse américain, c'est une arme qui peut aller jeter des bombes nucléaires ailleurs pour attaquer des autres pays. Donc ce n'est pas du tout une arme défensive. Et ça va même plus loin que juste la question de l'Ukraine et de la Russie. Écoutez un peu ce que dit Joe Biden.
Nous relèverons aussi immédiatement les défis posés à notre prospérité, à notre sécurité et à nos valeurs démocratiques face à notre concurrent le plus sérieux, la Chine.
Et Joe Biden, donc en fait, dit ouvertement que pour les États-Unis, la menace, le concurrent, le rival principal, c'est la Chine. Écoutez un peu ce que dit Anthony Blinken, ministre des Affaires étrangères des États-Unis à cet égard.
L'OTAN s'est réuni pour discuter de son concept stratégique, qui est en quelque sorte le plan d'action que nous avons pour la manière dont nous allons aborder le monde ensemble. Pour la première fois, la Chine est désormais une composante de ce concept stratégique, une préoccupation que tous les pays de l'OTAN ont.
Vous avez entendu ? C'est clairement la Chine qui est en ligne de mire. Donc on veut maintenant envoyer même des troupes ou des navires de l'OTAN en mer de Chine, Asie du Sud-Est. Pourtant, il n'y a aucun pays membre de l'OTAN là, donc c'est clairement pas notre problème de nous défendre là-bas. Non, la seule raison que la Chine entre en ligne de mire, c'est parce que c'est devenu un concurrent économique des États-Unis. Alors comment garantir la sécurité de toutes et de tous? Parce que c'est une question évidemment essentielle au niveau mondial. Alors, premièrement, je pense que nous devons oser reprendre ce qui s'est fait avant et qui était bon. Si dans ces grands affrontements, cette confrontation entre États-Unis et Union soviétique, c'était possible de trouver des accords de désarmement, de limitation des armes, pourquoi ça ne serait plus possible aujourd'hui? On va me dire, c'est bisounours. Non, pas du tout. C'était possible il y a quelques années, pourquoi aujourd'hui ça serait complètement exclu? C'est la seule voie. Deuxièmement, il faut réfléchir un peu à comment on se comporte dans le monde. Trop souvent, nous avons encore, en tant qu'Union européenne, l'envie de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et nous avons l'idée que plus nous étendons notre pouvoir, plus nous serons en sécurité. C'est pas forcément vrai. Dans l'instampiment épisode numéro 3, nous avons vu comment l'élargissement de l'OTAN, en fait, a créer un malaise, des peurs dans d'autres parties du monde qui font aussi réagir, comme l'a dit le pape, qui font réagir ou qui risquent de faire réagir d'autres pays. Et donc nous devons arrêter de penser que la sécurité, ça se construit tout seul dans notre coin. On va devenir très fort sans penser que ça va provoquer des réactions. Vaut mieux dire voilà, nous avons nos intérêts, les autres en ont aussi, discutons ensemble et trouvons une sécurité collective où moi je me sens bien chez moi et où l'autre se sent bien chez lui. Ou chez elle. Et finalement, aujourd'hui, on parle de dépenser plus et faire plus ensemble au niveau européen. En fait, aujourd'hui, au niveau européen, chaque pays achète son char, ses jets, etc. Aujourd'hui, on va dépenser encore plus. En réalité, on devrait coopérer au niveau européen pour dépenser moins en armement. Pour dire, voilà, chaque pays a besoin de tout. On réduit les dépenses militaires en collaborant, en travaillant de manière plus efficace au niveau européen. Et évidemment, avec une vision d'aller faire la guerre partout dans le monde, mais avec une vision de dire voilà, on fait le nécessaire pour pouvoir se protéger sans devoir aller envoyer des forces en Afrique, en mer de Chine ou que ce soit. Donc, accord de désarmement, négociation, un multilatéralisme dans le respect des intérêts des uns et des autres, et finalement, une défense vraiment défensive, non pas une défense impérialiste. Offensive. Voilà, je pense que nous avons à nouveau couvert pas mal de matière. J'espère que ça vous a intéressé. Comme toujours, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, de vous abonner maintenant. Envoyez-moi vos commentaires, idées, critiques, réflexions. Moi, ça m'a fait un énorme plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et j'espère qu'on se reverra bientôt dans de prochains épisodes ou ailleurs. On se croisera peut-être dans la rue en manifestant pour la paix ou pour nos droits sociaux. À très bientôt.
Ce podcast est une production de The Left Europe.